Il y a bien des motifs pour se réjouir aujourd'hui. Et c'est ce que déjà la liturgie de l'entrée de la messe nous a fait chanter. Je relis avec vous tout simplement cette antienne qui a débuté la messe. Réjouis-toi, Jérusalem, vous tous qui l'aimez, rassemblez-vous, jubilez de sa joie, vous qui étiez dans la tristesse. Alors vous exulterez, vous serez rassasiés de consolation. Quelle insistance pour appeler à la joie. Et il est vrai que les textes que nous entendons ce matin nous y invitent avec force. Nous avons entendu ce récit tragique tiré du livre des Chroniques du peuple d'Israël infidèle. Infidèle au point que Dieu le châtie sévèrement en permettant l'exil à Babylone. Loin du lieu de la présence, le temple de Jérusalem, est donc un traumatisme terrible pour le peuple, mais qui pourtant ne s'achève pas avec cet événement. Parce qu'en effet, l'infidélité obstinée des hommes n'est jamais le dernier mot de l'histoire. Sans cesse, en effet, Dieu repropose l'alliance. Il ne se laisse pas enfermer par la malice du péché, et c'est pourquoi, en vérité, lorsque Jérusalem va pouvoir être réoccupée enfin par ses habitants, il y a de quoi se réjouir. Oui, réjouis-toi, Jérusalem. En effet, dans ce épisode de Jérusalem qui va sans cesse se répéter au cours de l'histoire des hommes, au cours de l'histoire de l'Église, au cours de notre propre histoire personnelle, sans cesse va se mettre en œuvre cette vérité qui est vraiment le pivot de tout l'Évangile et que Jésus exprime ce matin devant Nicodème. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Le dernier mot de l'histoire, ce n'est donc pas le jugement au sens de condamnation, mais c'est cette volonté de salut constamment reprise par notre Dieu, perpétuellement fidèle. J'aurais presque envie de dire entêté dans son désir de sauver l'homme. Paul l'a bien exprimé dans la lettre aux Éphésiens que nous entendions tout à l'heure. Il l'exprime avec ces mots, et peut-être c'est tout aussi percutant, « Nous qui étions des morts, par la suite de nos fautes, Dieu nous a donné la vie avec le Christ. » Pour nous, la seule œuvre, entre guillemets, à accomplir, c'est d'accueillir tout simplement cette grâce. C'est d'ouvrir notre cœur à cette grâce d'un salut qui sans cesse s'offre à nous. Paul insiste sur cette place de la grâce qui dépasse tout. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il va le répéter, c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés. Et d'ajouter aussitôt, et par le moyen de la foi. Cette foi sur laquelle Jésus aussi insiste tellement ce matin dans l'Évangile, à travers un verbe qui est justement celui qui exprime la foi, croire. Tout homme qui croit a la vie éternelle. Quiconque croit dans le Christ, dans sa puissance de salut, ne se perd pas. Oui, troisième mention, celui qui croit en lui échappe au jugement. Autrement dit, quiconque croit que la force de l'amour divin surpasse infiniment notre propre péché, celui-là échappe au jugement. Au jugement, c'est-à-dire à la condamnation dans le langage de Jean. C'est précisément ce qu'exprimaient les premiers mots que nous entendions de saint Paul. Dieu est riche en miséricorde. Vous le savez, c'était le point de départ de toute la réflexion du pape Jean-Paul II dans son encyclique sur la miséricorde. Dieu riche en miséricorde. Un mystère qui avait fasciné littéralement petite Thérèse, que nous honorons ce matin à travers ses reliques, avec ses parents, Louis et Zélie Martin, déclarés saints en tant que couple, ce qui est tout à fait nouveau, par le pape François, il y a un peu moins de 2 ans. Eh bien, Thérèse a été certainement celle parmi les saints qui a mis le plus en évidence ce mystère de la miséricorde qui littéralement la fascinait, la transportait. Quand elle commence ses manuscrits autobiographiques, elle les résume en une phrase en disant « ma mère », puisque c'est sa mère qui lui a demandé d'écrire, sa prieure du Carmel, « je ne vais faire qu'une seule chose dans ces pages, magnifier ce que la miséricorde a accompli dans ma vie ». Et Thérèse sera tellement cohérente et conséquente dans cette admiration qu'elle a pour la divine miséricorde, qu'elle finira par s'offrir totalement toute sa personne à cette miséricorde. Et non seulement elle le fera pour elle-même, mais elle conviera ses sœurs et toutes les générations suivantes à faire de même. Oui, il y a de quoi se réjouir quand nous pouvons constater à quel point la grâce de Dieu a transformé une vie, a transformé des vies. C'est le mystère des saints. Et vraiment, nous pouvons reprendre ces mots de l'antienne que nous avons chantés au début de la messe. Alors vous exulterez et vous serez rassasiés de consolation. La fin de l'évangile que nous avons entendu est une belle description du témoignage que donnent les saints par leur propre existence. Celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Voilà la définition du saint, celui qui agit en union avec Dieu, et dont les œuvres alors, puisqu'elles sont marquées du sceau de Dieu, deviennent lumineuses. Lumineuses pour tous ceux qui les contemplent. Lumineuses dans le sens aussi où elles montrent une chose, c'est que la sainteté est possible. Elle est à la portée, finalement, de qui le veut, de qui le décide. Car la grâce est toujours donnée, Paul l'a dit, l'a suffisamment répété, et elle est donnée en abondance et en surabondance. À nous simplement d'ouvrir notre cœur. Célébrer les saints ne peut pas ne pas nous transporter de joie. Joie, comme sainte Thérèse de Lisieux, comme ses parents Louis et Zélie, joie de se savoir sauvé. Et c'est peut-être la joie essentielle, joie de se savoir sauvé. Mais aussi, joie de vérifier ce salut accompli dans la vie d'hommes et de femmes, comme nous. Ils n'avaient pas plus, ils n'avaient pas moins, simplement, ils ont cru à la puissance de salut, à la puissance de la grâce, et ils s'y sont ouverts avec simplicité et constance. Joie, bien sûr, de savoir que ces saints qui nous précèdent dans la gloire de Dieu ne cessent pas de nous accompagner en cette vie. Non seulement ils sont là comme stimulants, mais ils sont là aussi fortement comme intercesseurs. Et Dieu sait si Thérèse, mais aussi déjà ses parents, ont montré à quel point ils sont fidèles. Thérèse, vous vous en souvenez, avait dit « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Je suis frappé à chaque fois de voir comme dans un lieu où sont vénérées ses reliques, elle attire comme un aimant. On perçoit en elle un mystère à la fois de grande simplicité, mais aussi de grande profondeur, qui fait du bien et qui nous attire irrésistiblement vers celui qui avait fasciné son cœur, Jésus. Joie enfin de participer à la joie même des saints. Eux qui sont entrés dans la vie, pour reprendre une expression chère à Thérèse, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Quelle belle définition et juste de la mort. Quelle belle définition de ce qu'est le mystère pascal que nous nous apprêtons à célébrer. Joie enfin pour nous ce matin, très particulièrement, de pouvoir vénérer ces saints qui sont présents ici par leurs reliques. Et c'est l'invitation que je vous lance à chacun aujourd'hui, puisque ces reliques des saints parents de Thérèse et les reliques elles-mêmes de Thérèse sont présentes ici. Elles le seront jusqu'à la fin de l'office de sexte, vers midi. Donc ceux qui veulent peuvent vraiment venir puiser à la force d'intercession de sainte Thérèse et de ses chers parents.